Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est le 8 décembre 1870 que Pie IX, pour répondre aux vœux des pasteurs et des fidèles de l'Église universelle, déclara solennellement Saint-Joseph patron de l'Église universelle. En ce mois de mars qui lui est consacré, pour mieux le connaître, l'aimer et recourir à lui, nous verrons d'abord ce que renferme ce titre de patron de l'Église universelle. Puis nous considérerons deux points particuliers de ce patronage et les leçons que nous pouvons en tirer. Voyons tout d'abord le patronage de Saint-Joseph. Pourquoi Saint-Joseph, qui durant sa vie terrestre a été sans renommée, sans gloire, ignoré du monde, au point que les Juifs pouvaient dire de lui, pouvaient dire en parlant de Jésus qui était réputé son fils, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et les compatriotes de Joseph, pour humilier Jésus, le nommaient le fils du charpentier. Pourquoi l'Église l'a-t-elle choisi comme patron, de préférence à Saint-Pierre, qui a été établi par notre Seigneur, chef de l'Église, qui a parlé avec assurance aux autorités juives, qui a étendu sa prédication au centre de l'univers, à Rome même? Pourquoi aucun des grands saints de l'Église n'a-t-il eu ce privilège? Monseigneur Gay s'est aussi posé la question et il y répond ainsi. Si Saint-Joseph a été proclamé patron de l'Église universelle, c'est parce qu'il est supérieur à tous les saints, car aucun saint n'a ce privilège. Alors, essayons de voir cette grandeur, cette supériorité de Saint-Joseph. Tout d'abord, elle a été préfigurée dans l'Ancien Testament par Joseph, fils de Jacob. Quand la plénitude des temps fut venue où Dieu devait envoyer sur la terre son Fils unique, le Sauveur du monde, il choisit, dit Pie IX, un autre Joseph, dont le premier avait été la figure, pour l'établir seigneur et prince de sa maison et de ses possessions, et pour le faire gardien de ses principaux trésors. Alors les pères, les saints, les différents pères de l'Église, Saint Augustin notamment, ont tiré des choses intéressantes de l'Ancien Testament qui sont des figures de Saint Joseph. Tout d'abord, dans l'ancien Joseph de l'Ancien Testament, Joseph vit en songe le soleil et la lune qui s'inclinaient pour l'adorer. Eh bien, c'est une image de Saint Joseph. Le soleil représente Jésus, le soleil de justice. Et la lune représente la Vierge Marie, qui est belle comme la lune. Eh bien, cela signifie que Jésus et Marie seraient soumis à Saint Joseph, se laissant guider et protéger par lui. Un deuxième point qui annonce la figure de Saint Joseph, quand Joseph, fils de Jacob, fut établi par Pharaon, premier ministre, il lui adressa ces paroles. « Tu auras l'autorité sur ma maison, et à ta parole tout le peuple obéira. Et c'est par le trône royal seulement que j'aurai sur toi la préséance. Je t'établis sur toute la terre d'Égypte. Moi, je suis le Pharaon, mais sans ton commandement, nul ne remuera la main ou le pied dans toute la terre d'Égypte. » Le Pharaon, c'est le chef suprême. Il représente Dieu, qui donne à Joseph l'autorité sur sa maison. Eh bien, c'est ce que fait Dieu. Il donne l'autorité à Saint Joseph, après l'avoir tiré de son humble condition de la terre, charpentier. Dieu le revêt d'un manteau de gloire au ciel et lui donne pouvoir de subvenir aux besoins de tout le peuple chrétien. De même que le Pharaon a dit au peuple qui venait lui demander du secours au début de la famine, « Allez à Joseph, faites tout ce qu'il vous dira. » Eh bien, Dieu, dans nos détresses, nous dit « Allez à Joseph » et il pourvoira à tous vos besoins. La gloire et la puissance que le Pharaon a donnée au Joseph de l'Ancien Testament annonçait la gloire et la puissance que Dieu donnerait un jour à Saint Joseph. Et Saint François de Sales explique cette supériorité de Saint Joseph sur les autres saints. Dans la maison de Jésus et de Marie, dit-il, c'est-à-dire au ciel, les autres saints supplient, mais Joseph ordonne et obtient tout ce qu'il veut. Comme époux de la Vierge Marie, comme père de l'homme Dieu, il est par son intercession tout puissant dans le ciel. Alors, quelles sont les raisons, les motifs spéciaux de cette supériorité de Saint Joseph, de son patronage? Le pape Léon XIII, dans l'encyclique Quam Pluries, nous les donne. C'est le fait, dit-il, que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le père de Jésus-Christ. De là ont découlé sa dignité, sa grâce, sa sainteté et sa gloire. Et le pape explique, le patronage de Saint Joseph s'étend à toute l'Église universelle parce qu'il gouverna la famille de Nazareth, qui est l'Église naissante, avec l'autorité d'un père. De même que la Vierge Marie, en étant la mère de Jésus-Christ, le premier-né d'une multitude de frères, est devenue la mère de tous les chrétiens, de même, parce qu'il est l'époux de Marie et le père de Jésus-Christ, et a subvenu à tous les besoins de la sainte famille, Saint Joseph est devenu le protecteur de l'Église, qui est la sainte famille prolongée. Dans cette Église, les époux et les pères de famille trouvent en Saint Joseph un patronage tout particulier, puisqu'il est leur modèle dans des fonctions qu'il a assumées à la perfection avant eux, et qu'il est tout puissant sur le cœur de Jésus pour leur accorder toutes les grâces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Alors voyons justement ce patronage de Saint Joseph sur les époux et les pères de famille. Et pour le comprendre, il faut bien se dire que plus le mariage est saint, plus les fruits qui en découlent sont importants. À notre époque où le mariage est tourné en ridicule, il est bon de contempler un peu le mariage de Marie et de Joseph, qui est comme un phare lumineux placé sur le sommet du monde pour l'admiration et l'édification des générations qui se succéderont jusqu'à la fin des temps. Saint Augustin démontre que le mariage de Saint Joseph et de Marie fut un véritable mariage, parce qu'il contenait les trois liens du mariage. Le contrat, par lequel les époux se donnent entièrement l'un à l'autre, l'amour conjugal, par lequel ils se donnent leur cœur sans partage, et l'enfant. Le contrat, ils se sont donnés l'un à l'autre. Joseph appartient à Marie, et Marie appartient à Joseph. Ils se donnent réciproquement leur virginité. Toute la fidélité de ce mariage consiste à garder la virginité de l'autre. Ce sont deux virginités qui s'unissent pour se conserver éternellement l'une l'autre par une chaste correspondance de pur désir. L'amour conjugal. Bossuet fait remarquer que plus un amour conjugal est pur, plus il est fort. Le feu, dit-il, de la convoitise qui est allumée dans les corps ne peut jamais égaler l'ardeur des chastes embrassements des esprits que l'amour de la pureté lie ensemble. Saint Bernardin de Sienne dit que Saint Joseph et Marie ne faisaient ensemble qu'un cœur, qu'une âme. Ils étaient tous les deux dans un même esprit, une même affection, un même tout. Est le fruit de ce mariage, le fruit sacré, eh bien, Saint Joseph est le père de Jésus comme ayant part au fruit de la virginité de l'épouse. Saint François de Sales prend une gracieuse image pour expliquer cela. Une colombe, dit-il, laisse tomber une datte dans un jardin. Et cette datte donne naissance à un palmier. Ce palmier appartient bien au propriétaire du jardin. De même, on ne peut douter que l'Esprit Saint ayant laissé tomber cette divine date dans le jardin clos et fermé de la Vierge Marie, qui appartient à Joseph, comme l'épouse appartient à son époux, le palmier, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui en naîtra, appartiendra totalement à Saint Joseph. Il est vraiment son père, non selon la chair, mais comme ayant part au fruit d'une virginité qui est son bien. Joseph est vraiment père, dit saint Augustin, parce qu'un homme est d'autant plus fermement père qu'il est père d'une manière plus chaste. Le virginal mariage de Marie et de Joseph demandait un fruit qui fût du ciel, dit Don Maréchaux. Il tendait vers vous, ô Jésus, fruit céleste donné à ce mariage par le Saint-Esprit. Puisque Saint Joseph a été choisi par Dieu de toute éternité pour être le Père sur la terre de son Fils unique, il lui a formé un cœur de Père, riche d'un amour paternel qui dépasse celui de tous les pères de la terre et qui explique sa sollicitude inlassable pour Jésus et Marie, jusqu'à ce que sa mission fût accomplie. Tirons maintenant quelques leçons de ces considérations. Les pères de famille, dit Léon XIII, trouvent en Joseph la plus belle personnification de la vigilance et de la sollicitude paternelle, les époux un parfait exemple d'amour, d'accord, de fidélité conjugale, les vierges ont en lui, en même temps que le modèle, le protecteur et de l'intégrité virginale. Cela signifie, premièrement, que vous, père de famille et époux, devez avoir soin et prendre les mesures nécessaires pour qu'une atmosphère de pureté règne dans vos foyers. Plus un foyer est pur, plus il est fort, plus il est fidèle, et plus le fruit que sont les enfants seront vertueux. C'est un fait d'expérience, les saints l'ont tous noté. Alors, comment allez-vous faire? Eh bien, en menant tout d'abord une vie conjugale chaste, en bannissant de votre foyer tout ce qui peut porter atteinte à la vertu de pureté, en veillant à la modestie chrétienne chez votre épouse et vos filles, qui sera la gardienne de leur vertu. Saint Joseph et Marie ont été parfaitement obéissants à la loi de Dieu, dans les moindres détails. Si vous voulez l'imiter et obtenir des grâces pour votre foyer, il faut observer les lois de l'Église en matière de modestie chrétienne. Notre Seigneur a dit en parlant de son Église, des apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute ». On a entendu dans l'Évangile, « Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu ». Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Vous connaissez parfaitement toutes ces règles que l'Église a instituées pour la modestie chrétienne. Eh bien, il n'y a pas à balancer entre ces règles et l'esprit du monde. Soit on est de Dieu, soit on n'est pas de Dieu. Au jour du jugement, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Alors, soyez de vrais chefs comme Saint Joseph, d'une grande tendresse pour votre épouse et pour vos enfants, mais d'une grande pureté d'intention, celle de plaire à Jésus seul. Deuxièmement, en ces temps de troubles, de déboussolement des esprits, de crise de la foi, vous devez prendre modèle sur Saint Joseph pour assurer, bien sûr, le bien matériel de votre famille, mais surtout le bien spirituel de votre famille, en gardant une foi pure de toute compromission avec le libéralisme. Et pour cela, vous avez un devoir de vous former doctrinalement pour pouvoir former et élever la pensée de vos enfants. En assurant une éducation vraiment chrétienne à la maison et en choisissant pour eux les meilleures écoles de formation chrétienne. Tout cela n'est pas facile, me direz-vous. Cela demande beaucoup de sacrifices. est peut-être la source de grandes inquiétudes. Si votre but est droit et vise le bien de votre famille, Saint Joseph vous viendra en aide, sans aucun doute, lui qui est passé par tant d'épreuves. Alors, comme lui et avec lui, gardez le dépôt que Dieu vous a confié en le faisant fructifier pour la vie éternelle. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation patriarche Joseph, que telle soit notre devise à la vie et à la mort, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.